Eh bien, bonjour à tous, courageux aventuriers du dimanche matin. Pour parler donc de Running Gag, la temporalité de l'humour en science-fiction, avec moi aujourd'hui donc Jean-Claude Duniac, connu évidemment en tant qu'ingénieur aéronautique aux Utopiales, auteur, je lis d'un certain nombre de conneries, me souffle-t-il, plus de 100 nouvelles de science-fiction, de fantastique, de fantasy, qui a été directeur de collection Brage Le Nessef jusqu'à 2009. On va citer les plus connus, on va citer les deux romans, donc Étoile morte et sa suite, hein, écrit en collaboration avec Ayerdal, Étoile mourante, parmi un océan de textes.
Coucou Yael.
Voilà. Hop là, je suis mes fiches. Timothée Ray, qui a écrit, donc lui, qui est aussi professeur de lettres histoire, faut le dire, vénéré collègue, qui a écrit 6 recueils hein, de nouvelles, Caviardage, des nouvelles du Tibar, Dans la forêt des astres, Provenance du reclus, Cosmos Samoal, Toast et autres tribus, et 2 polars préhistoriques, hein, Les souffles ne laissent pas de traces et La mer des ondes est décrue. pardon. Auteur de BD aussi. Et scénariste. Tu veux que je cite tout? C'est vrai? Ils en ont assez, d'accord.
On n'est pas sérieux, hein, il faut bien vous rassurer. On a des biographies comme ça, mais c'est, même si c'est vrai, on n'est pas sérieux.
Sylvie Miller, écrivain, traductrice. J'ai pas dit Sylvie Miller?
Non, t'as dit Sylvie Miller.
Non, j'ai dit Sylvie Miller. Ah, oui. Ta tête a traduit non, Sylvie Lainé.
Ouais, t'as gardé les Miller pour la fin.
C'est ça. Je sens que ça va être compliqué. Écrivain, traductrice, anthologiste, créé le personnage de Lasser, le détective des dieux, avec Philippe Ward, dont 4 opus ont été publiés, hein, Privé sur le Nil, Mariage à l'Égyptienne, Mystère en Atlantide et Dans les arènes du temps en 2015. Elle a aussi publié plusieurs nouvelles, dont certaines ont été primées. Son premier roman donc, a été publié, Satinka, a été publié en 2017. Oui, je suis perdu dans mes fiches, mais c'est pas grave, elles sont numériques, c'est pour ça. Stéphanie Nico, à qui on doit donc de nombreuses anthologies, dont Roi et Capitaine en 2009, Magicienne et Sorcier en 2010, Victime et Bourreau en 2011, Incontournable de la Fantaisie en 2012, Les coups de cœur des Imaginales en 2013, Destination en 2017, spécialiste s'il en est des littératures de l'imaginaire, et qui dirige depuis 2016 la collection science-fiction des éditions Scrineo. Et qui assure depuis sa création en 2002 la direction artistique du Festival des Mondes Imaginaires d'Épinal, Les Imaginales, car on n'est pas raciste entre festivals. Et Dave Calvo, autrice notamment de son dernier roman, hein, Toxoplasma, paru à la Volte, et pour en citer quand même dans ceux que j'adore, Wonderful, et le recueil de nouvelles Acide Organique. Donc nous sommes ici pour parler d'un exercice difficile, qui est l'usage de l'humour en science-fiction, qui répond à une temporalité propre et qui, comme ça, de but en blanc, pourrait sembler être contradictoire avec ce qui fait en partie l'essence et le plaisir de la science-fiction, qui nécessite une suspension volontaire de l'incrédulité assez radicale, vu qu'il faut quand même accepter l'existence de mondes différents d'autres, sachant que l'humour pourrait effectivement avoir un effet de sortie, ou en tout cas ramener à l'effet du texte lui-même, ou à la communication entre un auteur et directement son lecteur. Y a-t-il une contradiction entre le fait d'écrire de la science-fiction et le fait de pratiquer l'humour?
J'ai pas compris.
Moi, je peux répondre.
Un a compris. Alors, je vais m'accrocher à lui, vu qu'il a compris ma question.
Juste une idée au passage. Il y a un théoricien qui s'appelle Darko Suvin, hein, c'est un Québécois, qui a écrit sur la science-fiction et qu'il appelle le genre de la distanciation cognitive. Donc, déjà, dans la SF, il y a une distanciation. Il y a cette mise à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le point de vue de Sirius, quoi. Hein, ou le point de vue des lettres persanes. Hein, c'est pas uniquement ça, la science-fiction, mais ça peut être ça. Et c'est pour ça que quand tu parles de mise à distance, ça me semble pas incompatible. Pour cette histoire, déjà, il y a une distanciation dans la SF. Donc, cette mise à distance peut aussi être s'opérer conjointement. Voilà, enfin bon, c'est ce que je pense et je le partage, mais...
Je sais pas. Oui, de toute façon, là... Ça va, on m'entend? Oui. La SF, c'est effectivement un genre où on est dans la distanciation, on est dans un autre univers, mais rien n'empêche qu'il arrive des choses amusantes aux personnages qui sont situés dans cet univers-là. Je pense que les deux ne s'opposent absolument pas et qu'à partir du moment où le lecteur est plongé dans cet univers-là et qu'il l'a accepté tel qu'il est posé, il peut après accepter plein de choses qui arrivent au personnage, et y compris des choses amusantes. Donc je crois que les deux ne sont pas nécessairement opposés.
Alors, je me suis ajouté à tous ces auteurs talentueux. Moi qui n'écris pas de fiction, j'ai écrit une nouvelle dans ma vie que je n'ai évidemment jamais publiée, mais ça m'a permis de voir comment ça marchait. Le moteur, ça c'est intéressant. Et surtout, je publie les autres. Donc voilà, un petit peu mon bonheur. Et c'est ce que j'ai fait une fois de plus dans cette anthologie du monstre. Alors je me suis demandé pourquoi j'étais là. D'abord parce qu'on voulait me recevoir, ce qui est très gentil. On voulait me permettre d'en parler, ce qui est encore plus sympa. Et puis finalement, science-fiction, non. C'est une anthologie pour cette anthologie du monstre qui transcende les genres. Il y a un texte de littérature générale, mais d'horreur. C'est du mot passant, c'est vous dire. Il y a des textes qui sont plutôt de la fantasy, d'autres du fantastique, mais oui, il y a des textes de science-fiction. Et entre autres, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être des raisons d'être sur cette table ronde, parce que les textes de science-fiction sont justement, comme par hasard, pour l'essentiel, les textes où il y a de l'humour. Alors, je vous rassure, surtout de l'humour noir, plus ou moins noir. Parfois, on rit franchement, parfois, on sourit. Et je pense que la science-fiction, elle peut, il n'y a pas que la fantaisie et les histoires de trolls que commettent certains que je ne nommerai pas, c'est-à-dire Jean-Claude Duniac. Il y a aussi de l'humour en science-fiction.
En plus, elle dénonce. Hein.
Elle balance.
C'était pas très troll.
Elle balance. Je vous renvoie à Sheckley, hein, pour tous ceux qui veulent redécouvrir des auteurs qui ont fait de l'humour, Frédéric Braun, etc. Il y a toute une tradition de l'humour en science-fiction, souvent de la nouvelle courte d'ailleurs. Et puis, là aussi, je donne un tout petit extrait. Bruno Vincent, que vous ne connaissez pas, qui a écrit dans sa vie quatre nouvelles entre 1959 et 1961. Et on en a publié une qui s'appelle « Mon oncle ». C'est une histoire qui démarre comme le coup de l'inventeur fou, vous savez, qui est tout seul dans son garage, thème un peu évidemment dépassé, 13 années, plutôt 19e siècle que 20e ou début du 20e. Finalement, c'est un texte de 59. C'est un texte qui fonctionne. Mais qui fonctionne justement parce qu'il y a plein d'humour. Le tonton qui déconne dans le grenier, le couple qui s'engueule parce que c'est plus supportable de le voir en demi-monstre faire peur à tout le quartier. On ne sait pas trop comment il se transforme, il sort la nuit. Et puis, on sent des odeurs bizarres. Et puis, on voit des créatures monstrueuses. Et au final, évidemment, je ne vous révèle pas la chute, toute la famille sera contaminée. Mais heureusement, Hollywood attend les monstres et les créatures parce que the show must go on. Donc vous voyez que humour et science-fiction peuvent faire bon ménage. J'en profite pour lancer un petit appel. Le chèque de Bruno Vincent attend aux éditions du Livre de Poche. Le problème, c'est que depuis 61, on n'a pas de nouvelles de lui.
Ce n'est pas un pseudo ?
Ok, alors c'était quoi la question ? Non, sérieusement, non, je déconne pas.
C'est une fausse question.
Oui, voilà, c'est bien ce que j'avais compris.
Oui, oui, c'était voir s'il y avait une contradiction entre SF et humour, ce qui est évidemment non.
Oui, ça y est, j'ai compris. Non, moi je vais juste te dire un truc que je dis tout le temps, c'est prendre au sérieux quelque chose d'aussi peu sérieux, c'est perdre son sérieux, quoi. Moi je crois que c'est n'importe quoi tout ça. Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, oui, il y a la vérisimilitude, il y a la ressemblance, tout ça, mais je crois qu'avant tout, moi, si je fais de la SF, c'est parce que j'ai envie de délirer, quoi. J'ai pas envie. Enfin, même si la vérité des sentiments et la vérité de l'intimité, elle est là, le reste, bon. Enfin, faire tenir debout des univers, c'est tellement compliqué que des fois, ben, c'est plus facile de les faire tenir debout avec une forme d'humour et d'absurde, je crois. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est tout aussi réaliste que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, la satire a été rattrapée par la réalité, quoi. Alors là, quand on en arrive là, en fait, c'est que, ben, c'est la fin des haricots. Donc autant y aller à fond, quoi, je sais pas.
Ouais, Dave a raison sur un truc. Rendre un univers crédible, même Dieu n'y arrive pas. Le nôtre ne l'est plus. Donc à un moment donné, il faut dire, je vois pas pourquoi nous on y arriverait. Enfin moi si, parce que bon, mais les autres, je vois pas pourquoi.
Du coup, la question logique était après, c'est est-ce que du coup il y aurait une spécificité de l'humour en SF ?
Oui, clairement, oui. On va essayer d'être sérieux 30 secondes, là, je suis désolé. Il y a effectivement, on est dans le décalage, on est en permanence dans la métamorphose, on est en SF, on est dans le moment où les choses changent, les choses explosent. Et dès qu'on fait un décalage absolument temporel entre ce qu'on décrit, si vous voulez, et une situation qui est totalement humoristique, à ce moment-là, on force le lecteur à avoir les jambes vraiment totalement écartées, au point de craquer la culotte, quoi. C'est vraiment le but de faire des grands écarts. Et ça, d'une certaine façon, ça fait grincer des dents, ça fait rire jaune, ça fait rire franchement quelquefois. Moi, je suis toujours mort de rire quand je vois des gens, je le citais hier, qui sont en 2322 sur Mars et qui écoutent du rap. Je me dis, ça prouve que le masochisme a de nombreuses années devant lui, mais ça prouve aussi quelque part que les mecs n'ont pas réfléchi en se disant, en 2322, on écoutera peut-être autre chose. Heureusement. Je veux dire. Donc, la science-fiction peut très bien jouer avec de l'humour, simplement en mettant des choses d'une époque, notre époque, à un moment donné, complètement délirant et dans le futur et lointain, etc. C'est-à-dire, si on se retrouve avec, je sais pas, avec une planète lointaine où des gens veulent participer à Love Story, on fait de l'humour parce qu'on se dit, quand on en est arrivé jusque-là, on devrait essayer de débarrasser de ce genre de choses. Et la réponse est non. Donc, d'une certaine façon, ça fait au moins rire jaune les gens qui ont remarqué le détail.
Moi, ça me fait penser à un truc, humour et temporalité. Il y a, comment dire, il y a une nouvelle de Poe qui s'appelle Bérénice. Bon, c'est pas de la science-fiction, là, on est dans du... Et c'est too much. Hein, c'est un gars qui délire, qui arrache les dents de sa copine dans un état de délire. Et il ne s'en rend absolument pas compte. Et c'est du too much de l'humour gothique qui s'écrivait, bon, Poe, il doit l'écrire dans les années 1830, qui s'écrivait vers 1800. Et donc là, je vois, en 1800, on peut écrire ça sérieusement, à la limite, dans un univers. Quand Poe l'écrit, il n'est pas du tout sérieux. Et il y a ça chez Lovecraft. Lovecraft, bon, qui n'est pas réputé quand même comme un auteur absolument hilarant, il a quand même écrit quelque chose de un pastiche. Il a écrit un pastiche de Frankenstein qui s'appelle Herbert West Réanimateur. Ça a donné lieu à un film de gore comique de Stuart Gordon, bon, de très très mauvais goût évidemment. Donc Herbert West réanime des morts. Donc c'est le docteur Frankenstein, quoi. Sauf qu'il se plante à chaque fois parce qu'il lui faut des cadavres frais. Et donc, c'est une nouvelle qui est divisée en petits chapitres. Et à la fin d'un chapitre, il tape dans la main. C'est bon sang, il n'était pas tout à fait assez frais. Et je suis désolé, ça, je le prends à la rigolade, quoi. Et Lovecraft, il l'a regretté, il a renié ce texte-là. Mais, et pareil, donc il y a ce décalage temporel. Parce que Frankenstein s'est écrit un peu plus d'un siècle plus tôt. Toi, je sens un truc comme ça. Il y a un regard aussi sur ce qui était sérieux dans le passé. Et maintenant, on joue avec. Ou toi, je sens un truc comme ça.
Ben l'humour, en tout cas pour l'auteur, ça permet aussi de jouer avec les ressorts habituels de la SF et puis de s'en décaler, de les regarder un petit peu de côté, de faire un peu de la satire ou de... par exemple, dans le tome 4 de la Serre, à un moment donné, ce détective qui est un détective qui a une chance énorme mais qui est tout très maladroit, qui est chez un antiquaire, dans une réserve, il trouve un espèce de petit dispositif cylindrique. Il y a des boutons, il appuie dessus et il se retrouve projeté dans le temps. En fait, c'est un petit dispositif qui le fait voyager dans le temps. Donc là, on aurait pu traiter la scène de façon très dramatique parce qu'effectivement, il est coincé, il fait des sauts. À chaque fois qu'il touche à ce truc, il change d'époque et il ne sait pas comment revenir. Là, le côté humoristique, c'était de se dire, ben voilà, il appuie sur un bouton et il va se retrouver chez Caligula en plein milieu d'un lit au milieu d'une partouze géante. Et là, du coup, lui est en décalage. Pardon, monsieur, dame, il ne sait pas comment il a... Mais il y a un ressort humoristique qui fait qu'on va contourner les schémas habituels de la SF en la regardant différemment. Mais on utilise quand même le dispositif du voyage dans le temps. Il est classique et on joue avec. Et ça, c'est très, très amusant de pouvoir jouer là-dessus. Hein, ou d'avoir H.G. Wells qui débarque avec sa machine pour venir le sauver, un peu comme un héros. C'est très drôle aussi.
Ce jeu Pratchett le joue beaucoup en fantasy aussi. Dans mes contes de fées, c'est ça. À un moment, il y a Gollum, quoi. Et j'ai jamais pu supporter ce petit salopard, etc. Et donc, Tolkien est revu par les trois sorcières de Pratchett. Et il y a ce décalage. Oui, d'accord.
Et c'est très, très amusant pour l'auteur de jouer avec ça.
Catherine Dufour a quand même écrit un bouquin absolument délicieux où ses personnages suivent les personnages du Seigneur des Anneaux et en fait se nourrissent des repas qu'ils ont laissés parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez le Seigneur des Anneaux, mais chaque fois que les mecs se préparent à bouffer, il y a les monstres qui débarquent, ils sont obligés de se barrer en laissant le truc à peine cuit. Donc les autres, ils arrivent, ils le bouffent en disant c'est bien, il y a des gens qui nous préparent la nourriture chaque fois. Moi, j'ai trouvé ça absolument délicieux.
Justement, je vous citais donc Bruno Vincent pour donner un tout petit passage parce que parfois lire, c'est mieux que de raconter autour du texte. Je m'attendais à tout, dit papa, mais pas à ça quand même. D'accord, tu n'étais pas déjà tellement beau, mais alors là, ça dépasse tout. Et puis cette corne, maman pleurait toujours de temps à autre, elle y allait de son petit cri. Oui, dit oncle Raoul, son ton était paisible avec un rien de triomphe. J'ai trouvé la dose exacte le jour de l'explosion. Avec cette saloperie, je peux me transformer à volonté en fonction de l'image que crée mon imagination. Par moments, j'arrive à être tellement laid que j'ose à peine me regarder dans la glace pour vérifier. L'autre jour, je me suis pris en traître, j'ai bien cru avoir une attaque. Et les bestiaux, questionna papa. C'était donc toi ? Je pense que oui. Voilà, un petit extrait de ce texte. Et évidemment, on est en 1959, on traite du savant fou qui bricole dans son grenier. C'est évidemment pas au premier degré. On ne peut pas écrire en 59 un texte sur l'histoire du savant fou, thème du 19e, qui serait complètement dépassé si on ne le fait pas. Et c'est le fait que ça se termine, où le fils de la famille qui en a marre de tout ce cirque, les vents, je peux vous révéler, là on peut faire un peu de spoiler, c'est pas grave, c'est plutôt une anto d'ailleurs fait pour les jeunes, mais comme le petit extrait le montre, je pense que ça peut toucher aussi un public adulte, en tout cas moi je me suis beaucoup amusé. Il y a de la distance, il y a du second degré, et c'est ça aussi parfois l'humour en SF. C'est quand on traite un thème complètement dépassé, un siècle plus tard, mais évidemment, un peu comme le cas de l'Euphrate, en le détournant, et c'est ce que font aussi une partie des gens qui sont à côté de moi à cette table. Et un dernier petit mot, évidemment, on ne peut pas, sur humour en SF, ne pas avoir une pensée pour notre regretté Roland Wagner, parce que voilà bien quelqu'un avec son détective au chapeau vert fluo, qui en fait est transparent, ce qui est très pratique pour faire des enquêtes, mais quand ils vont interroger, c'est un peu ennuyeux. Donc là, il met son Borsalino rose fluo, vert fluo, et là, on le voit. Voilà, là aussi, retournement
de situation. Il y a des lapsus intéressants quand même. Hein,
Absolument. J'aime pas le rose d'ailleurs, mais ça, c'est intime. Je t'en prie.
C'est à moi de jouer. Alors, ok, moi, je suis de mauvaise humeur ce matin. Donc, je vais.
Ouais,
ça se voit. T'as vu ça ? Je me suis comporté comme une conne avec la nana de l'entrée, là. Et. Ouais, j'irai lui faire une bise, il faut que je trouve un moyen de... Bon, bref. Non, mais je ne dors pas assez. Moi, je ne vais pas être d'accord avec tout le monde. Comme ça, ça va lancer le débat. Moi, je suis pas certaine qu'il y ait une spécificité de l'humour en SF. Pourquoi ? Parce que je pense que l'humour, ça transcende tout, en fait. Et que c'est juste une manière de jouer avec les univers et les codes qu'on utilise. Je veux dire, c'est comme se dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a un humour des couturières ? Est-ce qu'il y a un humour des archéologues ? Est-ce qu'il y a un humour de la littérature blanche ? Est-ce qu'il y a un humour... Enfin, je veux dire, il y a un humour de tout, quoi. L'humour, c'est une essence, c'est pas... C'est un courant qui traverse, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de mettre les choses côte à côte. Et oui, bien sûr, c'est bien ce que vous avez dit, toutes et tous sur le fait qu'il y a des moments d'humour qui sont très particuliers sur le voyage dans le temps, sur les trucs comme ça, évidemment. Mais c'est pas une spécificité de la SF. Pour moi, la seule spécificité de la SF qui devrait y avoir et qu'il y a et que j'essaye de pratiquer très modestement, évidemment, c'est le Larsen, quoi. C'est-à-dire que l'ASF qui utilise le présent et une observation très très pertinente et précise du présent pour pouvoir créer quelque chose sur une durée qui est soit demain, soit après-demain, soit le passé. Enfin, je veux dire, ça marche dans les deux sens, la science-fiction. Peut faire la même chose avec l'humour. Moi, j'ai toujours tendance à penser que la littérature en humour, elle est toujours un tout petit peu en deçà de ce qu'elle pourrait faire. Évidemment, on a des gens comme John Fante, on a des gens comme Brotigan qui ont fait des choses merveilleuses. En SF, il y a Sheckley, il y a Brown, il y a Waldrop, enfin des gens formidables.
Ou même
Tim Powers, quoi, qui est hilarant, quoi. Je veux dire, Tim Powers, c'est quand même très très drôle aussi, parce que Tim Powers, il comprend cette idée que on est déjà dans le make believe, on est déjà dans le burlesque, et il faut y aller. Et moi, je me dis qu'on n'y va pas assez. Moi, je me dis que si jamais Tex Avery était encore en vie, il ferait de la SF, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut tendre jusqu'à l'approche de la rupture, quoi. C'est vraiment Tex Avery, quoi. Je vous dérange ? D'accord. Vous me dites, hein, sinon je continue à parler comme ça dans le vide, voilà. Et oui, non, mais je suis hyper de mauvais poil, quoi. Et attends, c'est une conférence sur l'humour, quoi. Oui ou non ? Faut bien que quelqu'un foute la merde dans cette réunion, parce que sinon on va vraiment se faire chier, quoi. Alors, le truc, c'est que je pense qu'en fait, on n'a pas approché encore le niveau zéro, le niveau ultimate de l'absurde en science-fiction, où ça va vraiment vibrer, et ça va tout faire péter, quoi. Alors Pratchett s'en approche de temps en temps, quoi. Mais je crois qu'en fait, on n'a pas encore réellement pris conscience. Il y avait René Thom qui était un espèce de... qui avait fait une théorie sur l'idée qu'en SF, on pouvait essayer de rendre Tex Avery réel. C'est-à-dire qu'on pouvait se servir des auteurs. Je pense que ça va te parler.
Non seulement ça me parle, mais il y a un auteur qui l'a fait, Lafferty.
Oui, c'est ça, Lafferty.
C'est
encore
du Tex Avery, quoi.
Oui, mais c'est du Tex Avery, mais c'est vrai qu'il est dans une espèce de surréalisme un peu des fois intellectuel.
Lafferty, pour info, il a commencé une de ses nouvelles par « Il existe une société secrète de quatre personnes » qui est responsable de toutes les histoires drôles du monde. Une de ces personnes n'est pas drôle, voilà. Et c'est lui le responsable de toutes les histoires pas drôles.
Ouais, c'est clair. Mais la Ferti, moi, j'ai toujours trouvé, j'adore la Ferti, mais j'ai toujours trouvé qu'il était toujours un peu trop intello pour vraiment approcher cette espèce de folie furieuse, de lâcher prise en fait. Je trouve qu'il lâche pas prise en fait. Il est dans la.
C'est très construit, c'est vrai.
C'est très construit. Ouais. Il est dans le truc. Le lâcher prise doit aussi se faire dans la forme, le moment où la forme se dégrade, où l'absurde prend tout en fait. Non, non, il peut pas la Ferti, bien sûr que non. Ah. Voilà, excusez-moi. Non, non, mais je blague hein, quand je vous assume.
Je suis sage, mais non.
Je vous raconterai une blague à la fin pour détendre l'atmosphère, vous inquiétez pas.
Non. La Ferti, vous connaissez là dans le public ? Des gens l'ont lu. C'est Raphaël. Donc c'est un auteur de droite, hein, comme disait Stéphanie. C'est-à-dire c'est un gars qui, au moment de la guerre du Vietnam, par exemple, a pris clairement le parti des Faucons. Il était pour, quoi. Mais à côté de ça, c'est un novelliste parce que ses romans sont absolument illisibles, enfin, c'est ce que je trouve personnellement. Mais il a publié, je sais pas, une centaine de nouvelles qui sont toutes démentielles. Il y a, par exemple, il y en a une, c'est... oui, il y a souvent des thèmes complotistes. Toi, tu parlais de l'histoire du crocodile secret. Hein, donc, il y a plein de complots plus ou moins farfelus. Tu en as une où, par exemple, on nous a menti, le Moyen-Âge a duré 5 fois plus longtemps et l'Antiquité romaine 10 fois plus longtemps que ce qu'on nous dit. Et donc, il y a souvent des archéologues chez la Ferti, des chercheurs qui trouvent ça. Alors, c'est vrai qu'il lâche pas prise. Hein, ça reste toujours sous des dehors de folie. Ça reste millimétré, très carré, même très écrit. C'est un auteur que, et il est difficile de convaincre un éditeur de publier du La Ferti, parce que d'abord ce sont que des nouvelles. Actes Sud a essayé là, de republier Autographie d'une machine Ktistek, déjà le titre, voilà, et ça n'a absolument pas marché parce que c'est en plus son roman le plus dément, quoi.
Non, vraiment, si vous avez l'occasion, que vous aimez l'humour SF, essayez de retrouver d'occasion le livre d'or chez Pocket, il y a 20 ans, il en reste peut-être. Regardez sur les sites, franchement, ça sert aussi à Salnet. C'est génial, quoi, la Ferti. C'est complètement. Et c'est pas ma tasse de thé idéologique, hein, mais on s'en fout, là. C'est vraiment épatant, quoi. D'ailleurs, ce type, ça montre toutes ses contradictions. Un type qui est capable d'avoir cet humour-là et d'écrire des textes comme ça, et qui, pour les guerres du Vietnam, c'est. Ouais, il est ailleurs, quoi.
Alors, il y a la Ferti, mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours pousser la Ferti un peu comme le pape du truc. Moi, pour moi, c'est Waldrop. Et Waldrop, il est compatible avec nos idées politiques, quoi. Waldrop, il a écrit cette nouvelle formidable où Jacques l'Éventreur est une moissonneuse batteuse, qui est quand même un moment... Tu connais pas Howard Waldrop ?
Si, Histoire d'os.
Voilà. Oui, voilà, Histoire d'os, voilà. Qui est son roman, qui est son unique roman. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais donné, ce bouquin, si je me souviens bien. Et Waldrop a écrit, est un novelliste aussi. Ah ouais, et il a écrit des nouvelles absolument, mais génialissimes, quoi. Et alors bon, il a beaucoup d'humour noir, hein, et tout. Mais lui, il est dans le lâcher prise. Lui, il est dans le. Il commence à essayer. On voit quand ça commence à devenir vraiment, vraiment n'importe quoi, et qu'il prend ce n'importe quoi très, 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 très au sérieux, quoi. C'est la chose la plus au sérieux de la Terre, quoi. Une invasion de poulets à un moment donné, je crois. Une espèce de poulet de l'espace, truc de fou, et il fait ça de manière, mais. Oh là là, on a l'impression de dire, c'est super bien, quoi. Oui, c'est imperturbable, voilà, c'est ça, voilà. Génial.
Il y avait aussi l'auteur de science-fiction Cherokee, Craig Street, ah oui. Qui est dans les années 70. Là aussi, vous retrouvez des choses dans Univers, des numéros d'occasion. Et il y en a trop autres. C'est sur un peu la presse porno ou un peu de charme, comme on dit chez les machos. C'est le titre de la nouvelle, c'est où ils ont mis les agrafes et pourquoi elle a éclaté de rire. Je vous laisse deviner.
Il y a eu un type qui s'appelle Klaus Wienskel aussi, qui a écrit tout un tas de bouquins dans des genres très différents, et qui a écrit un livre qui s'appelle Midnight Examiner, qui se passe justement dans l'univers des journaux qui racontent n'importe quoi. Vous savez, Elvis a eu un bébé avec l'extraterrestre descendu de l'espace, enfin, ce genre de truc. Et il y a une scène en particulier totalement emblématique où les deux journalistes qui cherchent à écrire un article désespérément pour trouver un sujet parce que tout a été fait, et à un moment donné, ils se font attaquer par une espèce de psychopathe avec une hache qui se précipite vers eux dans un couloir en brandissant la hache. Et au lieu de s'enfuir, comme vous et moi, on le ferait, ils sortent tous les deux leur calepin en écrivant le psychopathe se précipitait vers moi avec une hache. Et ils se regardent l'un l'autre en disant non, c'est mon article. Le type, il était avec sa hache. Il dit, dites, ça vous embête pas de vous occuper de moi parce que je suis quand même en train de faire un truc là. Et les autres sont en train d'essayer d'écrire l'article désespérément parce que sinon, ils ne seront pas payés. Et ça, je me dis, quelque part, on a un type qui a totalement lâché prise et qui est dans son histoire, quoi. C'est génial.
Il y a un humour de décalage là.
Oui, il y a vraiment dans le décalage. On est vraiment dans le décalage. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a amusé, je suis pas un auteur humoristique par essence, mais il se trouve que la Talente m'a un peu forcé à écrire des choses drôles, bon, ce qui est vraiment un sacré boulot. Et j'en suis venu à parler de mon troll. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était de créer un univers de fantasy normal, avec les trolls, les nains, les chevaliers, les dragons, les nécromants, enfin des trucs normal, quoi. Je veux dire, la situation dont on a tous l'habitude, mais de me dire, pour la décaler complètement, la mettant dans le type d'univers qu'on connaît nous. C'est-à-dire avec des tableaux Excel, des réunions d'avancement, des plannings, des problèmes de budget. Donc, d'entrée, les nécromants les plus noirs, on ne peut les mettre qu'aux ressources humaines. Vous voyez, parce que c'est à peu près l'endroit où ça peut servir. Et j'avais comme ça écrit une nouvelle où il y avait des licornes qu'on retrouvait dans la mine complètement écrasées. En fait, elles étaient victimes de compression du personnel. Et le truc, c'est qu'on faisait de la compression du personnel parce qu'elles ne servaient plus à rien, les malheureuses licornes. Et mon troll, tel le sauveur, réussissait à les sauver en leur trouvant une utilité parce que c'était les seuls capables de transporter les CD et les DVD vierges. Donc, elles les enfilaient sur leurs cornes et elles étaient les seules capables de toucher les DVD vierges et qu'il le reste. Parce que sinon, les gens touchaient les DVD vierges et ça devenait des DVD utilisés, quoi, qui n'étaient plus vierges. Bon. Et donc, à ce moment-là, licorne retrouvait une utilité et pouvait se multiplier, etc. Et lui se promenait dans un champ où gambadaient les licornes avec des petites... Enfin, ça, à un moment donné, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce qu'on ne retient plus rien. Dave a raison, on est totalement dans le lâcher-prise. On se dit comment je vais sauver ces putains de licornes, qui en plus ne sont même pas des animaux sympathiques. Je veux dire, c'est pointu, une licorne. Mais... on se dit quand même, allez, j'ai laissé les vierges, je les enfile. En plus, ça tourne, vous savez, vous avez une corde torsadée, vous mettez le CD, il fait bzzz, comme ça, tac, jusqu'au moment donné, il est au fond. C'est génial. Et on se dit, voilà, on est dans le lâcher-prise.
Tu connais cette carte de la Terre du Milieu au quatrième âge, avec les autoroutes, les centrales nucléaires, etc. En Mordor, il y a des centrales nucléaires, il y a des... Vous connaissez pas cette carte ?
Non, je connaissais pas.
Bon, je trouvais ça sur le net une fois, je peux vous l'envoyer, quoi. Et bon, à propos de fantasy, juste, bon, je vais pas. Ou sinon, je te cède la parole et je reparle après.
Non, c'était pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude. Ces histoires de trolls, c'est aussi de l'humour corporate. Enfin, on voit bien, quand vous avez un stagiaire, si un jour il y a un stagiaire dans la salle, il devrait absolument lire le recueil de Jean-Claude parce qu'il découvrira comment justifier les notes de frais quand on a un troll comme patron.
Non, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un piège terrifiant, c'est qu'on écrit ce genre de conneries, parce que ce sont des conneries, on se dit, on se lâche totalement, et puis on s'aperçoit que ses collègues commencent à parler comme vos personnages, mais eux, ils font sérieusement. Et ça, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, de temps en temps, dans une réunion, vous avez un type qui balance une phrase, on vous dit, mais mon troll aurait pu le dire. Alors, vous la notez frénétiquement. En général, le gars vous regarde et vous dit, as-tu fait le compte-rendu ? Et tu dis, oui, oui, absolument. Et en fait, tu notes le truc pour mettre dans le bouquin. Et on se dit, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de balancer un machin comme ça ?
Et donc là, c'est un rôle vachement important de l'humour dans ces genres-là, mais on a ce regard après qui est sur la réalité, quoi.
Hein, mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais une réunion, on me demande, vous travaillez dans quel domaine ? Je réponds, méthode et outils. Et on me dit, quelle partie de méthode et outils ? Et je réponds, le « et ». Et le gars, tout à fait sérieusement en face, me dit, je vois exactement ce que vous voulez dire.
En plus, moi aussi, je vois, parce que t'es dans le lien, quoi. Voilà, mais ça veut dire ça.
Donc, à un moment donné, je me dis ça, il n'y a pas de problème, si mon troll le dit, c'est drôle. Le problème, c'est que quand lui, il le dit, c'est terrifiant.
Non, mais c'est exactement ça. Non, vas-y, tu voulais parler.
Non, t'en prie.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais c'est exactement ça.
Non, mais on le sait, on l'a vu. C'est pour ça qu'on continue. C'est ça qui est marrant.
Non, mais c'est exactement ça. C'est finalement, qu'est-ce que c'est la spécificité de l'humour en SF ? C'est juste d'apprendre à avoir le bullshit dans la réalité, quoi, et de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est-à-dire qu'on a développé peut-être une acuité d'analyse du réel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, qui nous est chacun personnel, à chacune personnelle. Mais c'est ça, en fait. C'est genre, on arrête le bullshit, quoi. C'est genre, moi, je ne peux pas. Sachant ce que je sais sur les corporations et sachant ce que c'est sur les structures de pouvoir et compagnie, je peux plus entendre un discours politique, je peux plus entendre un discours corporate, je peux plus entendre quelqu'un qui arrive et qui me fait un speech de management, quoi. Je veux dire, c'est exactement ce que tu dis. C'est fais-moi un speech de management. Je vais regarder. Je veux dire, mais c'est, tu te rends compte à quel point t'es parti en live là, on est très loin, quoi. Et là, faire de l'humour SF, c'est ça, c'est prendre ça et pousser ça le plus loin possible. Je sais pas. C'est ouais, c'est une...
le regarder depuis mars.
C'est la matière.
Ouais. Là, et puis le pouvoir totalitaire a une sainte horreur de l'humour.
De l'humour, mais bien sûr.
Ah, c'est quelque chose d'extrêmement subversif. Parce qu'on ne les prend plus au sérieux.
Voilà.
Et donc on voit, ça décrase les yeux aussi à ce côté-là.
Moi, je ne sais pas, mais moi, je suis quand même atterré par le sérieux absolu de ce qui se passe par rapport à. En général, en SF, fantasy, c'est très sérieux, c'est très, très pesant et compagnie. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Et en même temps.
Non. Bah, j'ai compris.
Qu'est-ce qu'elle a dit en même temps ?
Elle t'a macronisé. Maintenant, on dit, elle t'a macronisé, là.
Pourquoi elle m'a macronisé ? Ça veut dire quoi, macronisé ? Je vis au Québec, moi. Je suis pas chez vous. Hein. Pourquoi ça veut dire
parce que en même temps, c'est l'expression emblématique.
Ah oui, de... having said that.
Voilà, okay, c'est ça. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Having said that. Ok. Et en même temps, non. Oui, donc et en même temps.
Tu ne peux plus le dire. Ça.
Non, c'était ça. Je disais, c'est très très sérieux tout. Et en même temps, il y a des gens qui font des efforts. Quoi. Non, c'est vrai, il faut arrêter de se prendre un peu au sérieux quand même, parce que là, ça va un peu trop loin. Ah ouais.
Bon, je ne veux pas parler de Bibi, mais quand j'écris de la fantasy, j'aime bien entasser, et je me lâche.
Mais toi, tu revendiques l'écriture d'écrivain du drôle, quoi.
Ouais, enfin, je me suis pas collé l'étiquette sur le front, quoi.
Non, mais tu la revendiques au sens.
Parce que, en fait, je peux pas m'empêcher, il y a un petit diable qui me parle à l'oreille.
Ouais, c'est ça.
En fait, là. Et, mais dans la vie aussi, quoi, ça me pose problème. Hein. Je suis prof, il y a pas très longtemps, et puis ça s'est très mal passé avec un proviseur, pourquoi, au départ. Parce qu'un collègue est passé, et il sortait de cours, il disait, oh mon Dieu, le proviseur passe à ce moment-là, et j'ai dit, un peu fort, tu sais, il est resté très simple, tu peux l'appeler monsieur le proviseur. Le mec m'a regardé comme ça. Et depuis, non, après, il m'a fait la guerre, quoi. J'ai eu un rapport et tout, quoi. Alors, faut fermer sa gueule, en fait. Mais bon. Et oui, non, je revendique pas. Mais quand j'écris de la fantaisie, je sais que. Bon, l'SF aussi remarque. Mais je peux, même la préhistoire, je peux me lâcher. C'est-à-dire, j'ai des endroits où c'est foutraque. Je pense que c'est un peu. Bon, je suis quelqu'un de foutraque, globalement, dans ma personnalité. Mais là, je le fais. Je surjoue le foutraque, en fait. Et je m'amuse beaucoup. Et c'est puis en même temps, bon, j'essaie toujours de mettre un peu des trucs sur la guerre, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, enfin, toutes les saloperies qu'on est capable de faire. Mais je préfère en parler sur ce ton-là, plutôt que sur un ton effroyablement sérieux, quoi.
Mais ce que tu dis est intéressant, parce que l'humour permet effectivement de souligner l'absurde de certaines situations réelles. Finalement, quand tu disais que la réalité a rejoint l'absurde et le côté SF, avec l'humour, on peut vraiment mettre le doigt sur les choses qui coincent. Et c'est assez amusant à faire, parce que là, on peut se lâcher et aller à fond. Et en même temps, à côté de ça, on peut aussi écrire des textes extrêmement sérieux. Et finalement, écrire l'humour, c'est sérieux aussi, parce que ça demande vraiment de ciseler son affaire pour que ça fonctionne. Parce que c'est pas toujours évident, on peut tomber à plat. Mais ce côté vraiment de se décaler, de regarder les choses de côté, d'en rire et d'appuyer là où ça fait mal, finalement, ça a un côté très très jouissif pour l'auteur.
Oui, c'est d'autant plus facile que quand on maîtrise notre langage, moi je fais du corporate management toute ma journée, donc c'est un langage que je connais. Faire du corporate management quand on est face à une assemblée de chevaliers de la table ronde qui sont là parce qu'ils font un team building pour aller chercher le Graal, et me mettre à la place du conseiller qui est en train de les former et qui leur dit, bon écoutez les mecs, il y a un vrai problème, ça fait genre 3 siècles que vous cherchez le Graal, vous ne l'avez pas trouvé, est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas trouvé le Graal? Et à ce moment-là, il y en a un qui lève le doigt qui dit, parce qu'on n'a pas cherché là où il était. Et l'autre lui dit, non, enfin oui, mais non, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est parce que vous n'avez pas une approche client. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'envoie mes chevaliers teutoniques faire une analyse dans le public de ce que peuvent être les besoins clients vis-à-vis du Graal. Et donc, la première personne à qui il demande, c'est ma trollesse, le personnage de troll, et elle lui dit, bon, on va chercher le Graal, elle lui dit, c'est quoi? Et il répond, c'est une espèce de coupe, machin, bon, un truc précieuse, mais plus côté symbolique, vous voyez. Et à ce moment-là, la trollesse lui répond ce que répondrait n'importe quelle autre femme à qui on pose la question. Elle lui dit, est-ce qu'il passe le lave-vaisselle? Et à ce moment-là, le mec lui dit, ben, je sais pas. Elle lui dit, parce que sinon, ça m'intéresse pas. Et à ce moment-là, il dit, donc, c'est un besoin client. Et à ce moment-là, les gens reviennent donc avec un besoin client qui est le Graal doit passer au lave-vaisselle. Et on peut aller très loin comme ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous avez un post-it collé sur le truc avec besoin client doit passer au lave-vaisselle. Et quelque part, à un moment donné, il faut regarder la situation, il faut faire un demi-tour sur le côté et dire, mais ils font quoi? Ils savent qu'ils sont dans une réalité totalement alternative dans laquelle ils sont en train de se faire leur film. Et moi, je suis là, je regarde, je prends des notes. Et il suffit de remplacer mon chef par un troll, c'est relativement facile. Et à ce moment-là, je dis, ok, il n'y a qu'à l'écrire tel que ça se passe. Voilà.
Oui, je nous enchaîne, hein, pas de problème. Donc effectivement, ce côté décalage d'univers, tu parlais tout à l'heure du regard rétrospectif. Autant parler, parce que je vais quand même revenir à l'intitulé de la chose, on a évoqué deux temporalités qu'on retrouve énormément sur l'humour en SF quand même. Il y a une vraie tradition de la nouvelle à chute. dont on parle avec un vrai retournement final, qu'on a dans les drôles dès les nouvelles d'Asimov, je sais qu'il est un spécialiste absolu ou autre, il y a ce côté-là. Et il y a effectivement le côté regard rétrospectif qu'on voit se développer, c'est-à-dire quand on va commencer à jouer avec les attentes du genre, et on va effectivement partir d'un lecteur ou d'un spectateur qui s'attend à quelque chose et prendre le contre-pied au dernier moment. Après, il me semble, après, en tout cas en termes audiovisuels, qu'on n'a pas trop de chance en France par rapport à nos amis anglais, pour lesquels c'est une institution absolue. Les séries, Douglas Adams, il y a eu des adaptations BBC à la radio, il y en a eu à la télévision avant d'en avoir au cinéma. Oui, voilà. Il y a des choses comme Red Dwarf qui n'ont jamais fonctionné, qui n'ont même jamais passé la manche, qui est une série complètement loufoque de SF, France, et qui ne passe absolument pas. De toute façon, de manière générale, l'humour anglais s'arrête à la manche. Bon. Et le tunnel sous la manche n'a rien changé à ça. Mais la plupart des grands du stand-up ou du nonsense anglais ne passent absolument pas la manche. Et cette idée, effectivement, de revenir, alors évidemment, on prenait Terry Pratchett qui le faisait, Douglas Adams l'applique à la science-fiction, en prenant presque par le menu les grandes problématiques de la SF en les poussant à l'absurde, mais même de manière presque littérale. Je veux dire, le vaisseau, il fonctionne avec un générateur d'improbabilité. Le running gag, c'est un pot de fleurs qui va tomber dans l'ensemble des romans en disant « Oh non, pas encore !» avec cette petite coda, si on savait pourquoi le pot de fleurs venait de dire « Pas encore », on pourrait résoudre les problèmes de l'univers. Enfin, la grande question de l'univers, qui est le thème
du film. « Oh non, ils ont tué Kenny !»
Tu m'enlèves les mots de la bouche, voilà, c'est ça aussi. Ouais, je voudrais.
C'est quoi la chute?
il va pas spoiler.
Je peux pas spoiler la chute.
Moi, j'ai amené deux micro-nouvelles. Je vais les lire parce que c'est un peu bizarre, mais elles font trois lignes chacune. Quoi. C'est pas de moi. C'est un gars qui s'appelle Benoît Juspin, qui était dans la fabrique de littérature microscopique et qui joue un peu justement sur geste insensé, il se jette sur la voie. Le train arrive à toute vitesse. Adieu, monde cruel, pleure-t-il. Le convoi s'écrase sur son pied. Même ça, je le rate, pense Godzilla. Et alors, l'autre est terrible. Parce que c'est pas forcément, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, de choses amusantes. Avec l'humour, on peut parler de choses absolument abominables. Quoi. Chérie, le petit vient de se planter une fourchette dans l'œil. Tu peux en prélever un nouveau dans la réserve de clones? Un nouvel œil? Non, t'embête pas. Elle est abominable par le sous-entendu. Mais c'est de la nouvelle.
Ça aurait pu être une nouvelle fourchette.
Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses en 3-4 lignes, quoi, qui jouent sur les codes du genre et qui jouent sur la chute aussi. Benoît Juspin, il s'appelle. Les éditeurs ne publient pas parce qu'il fait des trucs super courts.
Alors, moi, j'essaie de construire la blague parfaite depuis un certain nombre de temps.
Le crocodile secret va t'embaucher.
C'est parce que je déteste les chutes, et alors la chute est très mauvaise. Mais c'est des running gags. En fait, j'essaie de faire une blague avec des running gags et avec une chute en même temps et que l'ensemble se tienne. Alors, je vais vous la livrer. Elle est un peu longue, mais j'ai envie de... Voilà, ça va me détendre, ça va me donner un moment de vie. Donc, c'est un mec qui ne peut plus supporter son chat, alors il a envie de tuer son chat. Alors, il prend son chat, il le met dans la voiture et puis il fait des kilomètres avec le chat et il fout le chat dans la forêt et il dit « Allez, casse-toi, quoi. » Il rentre chez lui, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit dans le salon en train de se faire les griffes sur le fauteuil? Le chat. Donc là, il fait « Ok, bon, il a dû rentrer, je sais pas. » Il prend le chat, il met le chat dans la bagnole, il fait 50 bornes, il lâche le chat dans un ravin, il rentre chez lui, il se dit « Bah, ça va, là, c'est bon, on est tranquille. » Il ouvre la porte, il rentre dans son salon, il se cale, il va se laver les mains. Et qu'est-ce qu'il voit en train de boire l'eau des chiottes? Le chat. Alors là, il se dit « Ok, bon, il y a un petit problème. » Alors, il prend le chat, il met le chat dans la bagnole, il fait 100 bornes, il lâche le chat dans une espèce de lande désolée, en pensant que le chat va se faire bouffer par un loup-garou. Quoi. Et donc, il dit « Voilà, moi, je suis sûr que le chat ne rentrera pas. » Il prend sa bagnole, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il voit dans le lavabo de la cuisine, en train de manger les restes de sa salade? Le chat. Alors, il se dit « Bon, écoute, c'est plus possible. » Là, il met le chat dans une boîte, il met la boîte dans le coffre, il rentre dans la voiture, il fait 500 bornes. Il va, mais jusqu'au bout de son département, quoi. Il enterre le chat, la caisse du chat dans un trou. Il fait « Toi, tu sortiras pas de là, quoi !» Et donc, il prend sa bagnole. Sauf qu'il a fait 500 bornes, il est complètement paumé, le mec. Il se dit « Putain, merde, je suis paumé, il arrive pas, il trouve pas l'entrée. » Donc, il voit une cabine téléphonique, il s'arrête. Alors, il appelle chez lui. Et là, il y a le chat qui répond. Et il demande au chat « Ok, c'est quoi? Comment on fait pour rentrer, quoi ?» Tu vois le truc? Tu vois le truc ? Donc là, moi je crois que là, j'essaye de faire la blague parfaite. Elle n'est pas parfaite encore, parce qu'il y a des moments, voilà, etc. On n'est pas loin, parce qu'il y a donc le running gag qui se met en place. Il y a la chute qui est des fois mauvaise. Le problème de la chute, c'est que quand on fait une chute, après, on a l'air, il faut être super satisfait de soi. Regarde, j'ai fait une chute. C'est horrible de vivre après une chute, quoi. Non, non, mais c'est vrai, c'est terrible. Surtout quand on est mauvaise, comme les miennes et compagnie, quoi. Et donc, mais il y a autre chose aussi. Il y a le fait que le chat réponde. La blague pourrait s'arrêter là, et je pense que la chute serait meilleure, en fait, quoi. Si le mec, il téléphone chez lui et que le chat répond, et là, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire quelque chose derrière ? Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Donc, il est là, l'humour, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une question de rythme. C'est-à-dire, est-ce que le chat, la manière dont le chat en running gag, il est là, c'est une question de pouvoir gérer l'intensité et la retombée de la chute avec son misérable ego. Et c'est la capacité de savoir où s'arrêter et à quel moment l'arrêter. C'est vraiment hyper technique, en fait, quoi. Et il faut toujours jouer avec ça en permanence, surtout sur les romans où c'est compliqué parce qu'on a énormément de matière, on a énormément de persos et de subplots et compagnie. Et là, on a toujours tendance à en faire un peu trop. Sauf que, justement, le rabotage, quelle est la technique de montage qu'on peut utiliser en littérature pour pouvoir vraiment faire ces effets-là et hyper incisifs tout le temps, quand on enlevait gras tout le temps, vraiment être sur la moelle en permanence, quoi. C'est très très dur et c'est au cinéma c'est moins difficile. Black Edward, ça fait, si vous aimez l'humour, il faut absolument que vous voyez les films de Black Edward, enfin, probablement que vous les avez déjà vus, mais il a aussi beaucoup parlé de comment lui voyait l'humour et il avait un sens du timing qui est absolument époustouflant. Il faut voir The Party encore à nouveau, quoi. C'est un film inépuisable en termes de structure, d'humour structuré, quoi. C'est magnifique, quoi. Je vais m'arrêter de parler là parce que sinon je...
Non, Black Edward, tu peux continuer.
Mais vas-y,
Non, bon, j'ai créé un polar préhistorique, enfin deux, et le premier polar préhistorique, là, c'est, je parlais d'autre chose. Si, ce que tu dis, un peu, je rebondis sur ce que tu dis, Dave, sur construire en fonction de la fin. Et bon, j'ai un chaman détective, il y a 32 000 ans, qui s'appelle Nakan Oeil, machin, et il a un aide, un disciple, qui s'appelle Farouche. Farouche, en fait, sans eux, c'est le nom d'une variété de trèfle, ils ont tous des noms de plantes et tout ça dans la préhistoire. Farouche que de roc. Et je l'ai appelé comme ça parce que je voulais impérativement, à la fin, faire un jeu de mots sur roman des âges farouches. Et là, il y avait... je me rappelle plus exactement, je sais qu'il dit « sage, oh sage, farouche », quoi. Il y avait un truc comme ça. Et le nom, vraiment, je l'avais prévu, j'avais anticipé. Et pour dire qu'aussi, voilà, le bon, je le vois bien aussi dans le fait de jouer sur le... Parce que là, on a parlé de rythme, etc. Sur le jeu de mots en bois, quoi. Le jeu de mots de merde, etc. Qui voilà, j'ai un maître, voilà, à qui je donne la parole pour
c'est,
ça. Quoi.
C'est vrai que le jeu de mots, ce qui est un des bonheurs, moi, je fais des jeux de mots particulièrement lamentables. Et alors, l'avantage d'être écrivain, c'est que je peux les recycler, si vous voulez. C'est un gros boulot. C'est-à-dire, non seulement ils sont lamentables, mais en plus, vous pouvez pas y échapper, quoi. C'est bien. Mais ça m'oblige carrément à écrire la scène d'avant pour que le jeu de mots arrive. Voilà. Et s'arranger pour que personne ne voit le jeu de mots venir. Voilà. Les gens lisent la scène en la trouvant, j'espère, normale, enfin, arrivant à se produire. Et puis, à un moment donné, là, il y a le jeu de mots qui leur tombe dessus. Et les gens se disent, non, il n'a pas fait ça pour ça. Et la réponse, c'est si. Oui, et en général, ce que j'essaie de provoquer, ce n'est pas le rire nerveux, c'est plutôt le sentiment de je sais pas, que l'univers est lamentable et qu'on va tous mourir. Quoi, en fait. En fait, la seule personne que ça fait rire, c'est moi. Hein, mais c'est à vos dépens, quoi, en fait, quelque sorte.
Non, parce que tu as créé ton idée. C'est ce que faisait Raymond Roussel. C'est-à-dire qu'il écrit des livres en se basant sur des jeux de mots. Et là, en fait, c'est la création de l'univers dépend d'un mauvais jeu de mots. Et ça, je trouve ça absolument jouissif, quoi, personnellement.
Mais
bon.
Mais on peut faire. Vous, avec la serre, vous en faites plein. Et en plus, quand on a l'œil, on voit les choses construites. On se dit, ah, elle a fait ça pour pouvoir annoncer 4 lignes ou 10 lignes ou même carrément une page plus loin que là. Il y a la scène.
Effectivement, il y a des scènes qu'on a écrites exprès pour arriver au jeu de mots. Et on arrive aussi à recycler des choses humoristiques à partir aussi de personnages de SF ou de personnes qu'on connaît. Donc ça, c'est aussi amusant parce que ceux qui connaissent les gens et voient arriver la blague et voient le second degré derrière ce personnage, bon, ceux qui ne connaissent pas lisent, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail de construction et que ce n'est pas si simple que ça. Ça demande vraiment du boulot d'arriver à construire de l'humour en SF.
Et puis, on peut se faire un plaisir aussi qui est génial, c'est de prendre des phrases classiques, genre « par la guerre, nul ne devient grand », vous savez, là, et la remettre dans une situation où cette phrase s'applique, mais de façon complètement différente. Et la raison pour laquelle « par la guerre, nul ne devient grand », c'est qu'à force de vous faire taper dessus, vous rapetissez. Oui. Donc oui, vous expliquez ce truc, vous avez tout ce raisonnement-là et vous avez quelqu'un qui explique très sérieusement que par la guerre, nul ne devient grand. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte à quel point la phrase est conne. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez aussi, moi j'ai beaucoup d'informaticiens dans mon environnement, il y en a certains que je salue, et j'ai eu le plaisir, mais totalement pervers, de replacer la phrase « le problème vient du serveur », hein, qui est une phrase que tout informaticien a dit un jour ou l'autre dans sa vie, mais là, c'était le serveur qui servait les bières. Voyez, et c'était un problème informatique, et on découvrait que le problème venait du serveur, mais du serveur à bière. Bon. Et ça, croyez-moi, c'est un bonheur absolument total. De la même façon qu'un de mes plaisirs les plus jouissifs de ces dernières années a été de me retrouver au Japon, à Kyoto, dans une boulangerie française. Et ils vendaient des chocolatines, d'ailleurs. Je me suis dit, ça y est, Toulouse a gagné. Yes ! Et puis... Et là, je prends mes différents gâteaux, dont une chocolatine. Et quand j'ai fini de payer, la serveuse japonaise me salue et je lui dis arigato pour les gâteaux. Et ça, je veux dire, ça m'a réjoui le cœur, vous n'imaginez pas, de dire arigato pour les gâteaux avec une fille qui ouvrait des grands yeux en se disant mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Voilà.
Il y a parfois aussi l'humour, le private joke. Alors, évidemment, l'ennui, c'est que ça laisse à l'écart une partie du public. Et je pense que Roland, qui savait à la fois faire un humour pour tout le monde, Roland Wagner, savait aussi faire un humour interne. Et je pense, et ce sera amusant de le retrouver, au cycle du fandom, où en s'appuyant sur sa vraie connaissance et aussi une vraie gentillesse, c'est-à-dire que quand il nous taquinait, c'est le mot juste, c'était à partir de nos petits travers individuels une taquinerie sympathique. C'était jamais méprisant, odieux. C'était toujours... Ouais, vraiment. Et pour prendre mon propre cas, comment il avait sévi, il m'avait représenté traînant toujours un jeune auteur. Alors bon, évidemment, je cherche des textes, c'est logique. Mais tout simplement parce que comme je venais d'arriver un peu avec pas une connaissance encyclopédique comme lui... Je suis arrivé par les auteurs modernes. Donc, ils se moquaient de mon inculture. Bon, j'espère qu'au bout de 40 ans, ça n'existe plus. Mais une inculture que j'avais des grands classiques de la SF. Et donc, pour me taquiner, il expliquait que j'avais un problème, c'est que j'étais irradié. Voilà pourquoi je traînais des jeunes auteurs, parce qu'il fallait que je change de corps régulièrement. Évidemment, je ne leur disais pas. Parce que je n'avais lu que les quatrièmes de couverture des grands classiques. Je ne savais donc pas que le nucléaire, c'était dangereux. Voilà, ça, c'était l'humour gentil, sympathique de Roland Wagner.
Oui, c'est une série qui a d'ailleurs été rééditée chez... comment s'appelle-t-il le truc de Jérôme Beau ? Chez Jérôme Beau, aux éditions Armada. Aux éditions Armada, c'est très, très drôle. Et si vous voulez, ça part d'une espèce de principe général qui est que la guerre atomique, la Troisième Guerre mondiale, a eu lieu. Et les seuls qui s'en sont tirés, c'est nous. Nous, les lecteurs de science-fiction, etc. Parce qu'en lisant de la science-fiction, on est protégé des radiations. Et alors, évidemment... On acquiert des super-pouvoirs, bon, sauf évidemment Stéphane Inico, qui ne lisait pas les bouquins, qui ne lisait le quatrième de couverture. Donc, il était un peu protégé, mais il était quand même en train de se décomposer en permanence. Donc, dans l'ensemble du cycle, on le voit passer en perdant des bouts de lui-même. C'était quand même prophétique. Et c'était extraordinaire. Et donc, du coup, les seuls personnages étaient les lecteurs, les membres du fandom et évidemment les auteurs de l'époque qui avaient acquis des super-pouvoirs. Et moi, j'étais très content parce que j'étais devenu un méchant dans cette histoire. J'étais un méchant récurrent. Et le héros était Emmanuel Jouanne. Et qui était devenu Super Jouanne et qui combattait ce malheureux Michel Pagel qui giflait un lecteur parce que c'était une histoire qui s'était produite à l'époque, c'est célèbre. Et donc voilà, l'histoire est devenue en quelque sorte mythique, quoi. Voilà. Et c'est très rigolo. Enfin, c'est très très bête, mais c'est très rigolo.
Alors l'humour est parfois quand même pas toujours aussi chaleureuse. Et c'est vrai qu'Emmanuel Jouanne avait un humour un peu plus rude. Et je pense à une convention à Thionville en 82, si ma mémoire est bonne, où il n'y avait qu'un lecteur dans la salle. C'est pour vous dire que les choses ont changé quand même. Nous avons beaucoup progressé. Et évidemment, tout le monde autour du lecteur, parce que ce n'était pas les auteurs, la personne étonnante, c'était le lecteur. Et à un moment donné, je dis à Emmanuel Jouanne, je crois qu'il n'a lu aucun de tes romans. Alors Emmanuel l'interroge et le lecteur naïf répond non. Et je dis, franchement, Emmanuel, tu devrais le gifler. Mais évidemment, je plaisante. Emmanuel Jouanne gifle le lecteur. Ce qui est devenu, évidemment, alors, il était quand même un peu en état de choc, je dois vous dire, pauvre lecteur. Je l'ai croisé d'ailleurs à Nancy il y a une semaine, comme quoi c'est quand même extraordinaire, juste
donc,
avant.
Complicité d'actes de violence.
Voilà, le lecteur, pas évidemment, Jouanne qui nous a quittés il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et le lecteur, en fin de compte, on était quand même très gênés, donc on l'a invité. À la soirée, au milieu de plein d'auteurs, donc ça c'était quand même un beau rattrapage pour la baffe. Et il m'a quand même confié.
Pas l'état dans lequel il est ressorti.
Voilà, il m'a quand même confié en fin de soirée qu'à les fréquenter de près, les auteurs de science-fiction perdaient parfois un peu de leur aura.
Alors, pour parler d'une nouvelle aussi, qui est un petit peu par référence au fandom, etc., nouvelle qu'on a commise dans une anto dirigée par notre cher ami, il y avait donc effectivement une nouvelle qui se passait dans un pays fort, fort lointain. Et dans l'est de ce pays, il y avait un château en haut d'une colline, une rivière et un grand festival littéraire dirigé par une licorne à la crinière blonde qui, entre deux tables rondes, allait courir dans les prés pour péter des arcs-en-ciel. Et donc, évidemment, il y a toute une description comme ça de ce festival littéraire dans ce monde parallèle. Et c'était très, très amusant de croquer un petit peu des... Ah, le député maire était bien. Oui. Donc, et c'est amusant aussi de pouvoir croquer ça sous une forme humoristique, en finalement reprenant des tas d'événements historiques de ce festival. Et en même temps, c'était bon enfant et c'était pas méchant, mais c'était très très amusant à faire. Absolument, absolument.
Il faut quand même savoir que nous avons une espèce de baromètre de mesure de l'intérêt d'un festival qui est le nombre de jeux de mots pourraves qui sont faits durant le dit festival. Et de ce côté-là, Épinal, je crois, bat tous les records, mais les records d'abondance. Ça a commencé le premier jour du premier festival où Stéphanie, honte à elle, dans un état d'inconscience que je qualifierais de profond, m'a demandé de rejoindre le député-maire sur scène parce que, soi-disant, je présentais bien. Vous vous rendez compte quand même le niveau auquel il en est arrivé quand même. C'est quelque part, on sentait qu'elle était fatiguée, quoi. C'était un vrai problème. Et ça ne s'invente pas. Le député maire me dit: écoutez, je suis très heureux de vous accueillir au nom de tous les spinaliens. Et là, il faut savoir qu'un jeu de mots, vous avez une espèce de fenêtre de tir d'à peu près 2 secondes,
ça,
dans lequel le jeu de mots
ça.
Se crée. Donc il faut être très très rapide. Il faut avoir la tapette à mouche pour faire là le jeu de mots, je l'ai eu là. Et donc, je me tourne vers le député-maire et je dis: donc, excusez-moi, monsieur, mais les habitants d'Épinal sont les spinaliens? Et il me regarde, il me dit: oui, vous l'ignoriez? Je l'ignorais d'ailleurs. Et j'ai dit: oui, mais est-ce que ça veut dire que les intellectuels d'Épinal sont les cérébraux spinaliens? Et à ce moment-là, Stéphanie me regarde en disant: putain, ça y est, c'est la première fois du festival, il m'a tout planté. Et il y a, je vous jure, mais 2 secondes de silence absolu, parce que personne n'osait rire. Il y avait le député-maire qui était à côté, qui, heureusement, semble-t-il, est médecin. Et qui, donc, savait parfaitement de quoi je parlais, et qui part d'une espèce de fou rire monstrueux en disant: mais pourquoi on ne l'a jamais fait? Et là, comme le chef riait, c'était drôle. Donc tout le monde se met à rire, mais avec genre 3 secondes de retard. Et je vois Stéphanie qui commence à dire: putain, on l'a échappé belle. Et qui vient me voir après en disant: tu me refais plus jamais ça, plus jamais tu me le refais, d'accord? Plus jamais, c'est vrai. Voilà.
Eh oui, mais ça sort tout seul.
Sauf que malheureusement, tu le refais à chaque fois.
Tu le refais à chaque fois, c'est ça, mais bon.
Ça sort tout seul.
Voilà.
Voilà, il nous reste juste 5 minutes. Le temps de prendre une ou deux questions. Oui, il y en a devant.
Il y a un gag récurrent.
Est-ce qu'il y a un micro pour le public?
Oui, bonjour. Je suis désolée. Des fois, je trouve ça difficile en tant que public d'intervenir juste à la fin. Mais parce que ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour développer ou partir sur d'autres directions. Ou... En tout cas, j'ai un problème. Et juste en préalable, je voulais dire que, en tout cas, pour moi, l'humour en général, c'est un peu de l'ordre de la survie. Enfin, pour moi, ça va avec le fait que ce monde est tellement horrible et insupportable. Voilà.
Mais je te rassure, on meurt à la fin. Ouais. Hein,
c'est... Non, mais t'as tout à fait. Mais du coup, j'ai un problème par rapport à ça, parce que je collectionne les blagues, mais je suis féministe. Et alors, le féminisme... Non, mais c'est un faux problème, hein, évidemment. En fait, ma question, c'est comment vous êtes confrontée dans vos écritures, mais aussi avec vos collègues ou avec le monde de l'écriture de l'imaginaire en général, à cette brûlante question de tout n'est pas drôle, ou comment on ne fait pas de l'humour avec tout, et notamment la complaisance à faire de l'humour sur des choses qui appuient l'horreur, et pas dans le sens de se dire qu'on va tous mourir, parce que ça, je trouve ça plutôt drôle, mais dans le sens, vous voyez, de ce qu'on appelle l'humour sexiste, l'humour raciste, l'humour qui n'est pas drôle.
Je vais te répondre parce qu'il s'est produit un événement hier, et ça me fait réfléchir aussi. J'étais en dédicace, et j'ai tout un tas de crayons de couleur pour faire des dédicaces, et je les prête à ma voisine, qui est une très bonne copine féministe, et qui tend le paquet au gars qui demande une dédicace et qui lui dit « Choisis ton crayon », et il dit « Celui-là ». Et elle regarde et dit « Donc, tu vas être violée ». Et à ce moment-là, je rajoute « Tu vas pouvoir écrire MeToo, moi aussi ». Et à ce moment-là, la copine m'a regardé, le gars m'a regardé, j'ai dit, bon, trop tôt. C'est peut-être pas le bon moment, c'est trop tôt. Oui. Donc moi, j'aurais tendance à rire de tout, parce que par définition, si je m'impose un arrêt, c'est que j'ai déjà perdu, c'est que quelque chose a gagné et je veux pas que ce soit ça. Mais il y a des moments où je reconnais que, ok, j'aurais pas dû.
Mais moi, j'aurais tendance à rire de tout, mais peut-être pas avec tout le monde. Et du coup, ça pose la question, en tout cas, de la publication et de faire de l'humour dans des textes qui sont diffusés très largement. Et de se demander, voilà. C'est autour de ces questions-là. Voilà.
Il y a quand même une chose aussi que je peux dire, je crois qu'on est tous d'accord sur cet aspect-là. La personne dont on se moque le plus facilement, celle qui est la plus grosse victime de nos blagues et celle vraiment qu'on rend ridicule de manière régulière, c'est soi-même. Et de ce côté-là, je n'ai aucun problème avec moi-même à me traiter comme un clown et à me faire m'étaler par terre et écraser mon faux nez en plein dans une merde. Ça, ça ne me pose aucun souci. Donc, je peux le faire sans aucun problème à tout moment.
Ouais, moi, je suis tellement avec toi là sur ce sujet. C'est quelque chose que moi j'arrive pas à gérer personnellement. Le seul moyen que j'ai réussi à le gérer, parce que moi ta blague de mytho m'a fait pas rire personnellement du tout, mais pas maintenant ni demain quoi, en fait, tu vois. Donc voilà, c'est pas une question de timing pour moi, c'est vraiment une question de mauvais goût là pour le coup quoi. Tu vois, voilà, c'est bien. Non mais je sais bien, mais t'es quelqu'un de bien, je sais très bien. Mais le problème, c'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien qu'on peut pas non plus être esclave d'un certain nombre de systèmes intégrés à la société et qu'on est en train d'identifier. Et c'est précisément ça qu'on essaye de faire en ce moment avec les revendications, c'est d'essayer de pointer dans ce qui est intégré au système et qui est invisibilisé et qui est devenu finalement une source de comédie, etc. Alors là où je te rejoins par contre, c'est l'idée que moi déjà je mets pas les choses en termes de on a gagné, on a perdu. Il y a pas de on a gagné et a perdu. Déjà on va essayer de faire en sorte de vivre ensemble. Les gens qui veulent gagner, les gens qui ont perdu, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas les rapports de, c'est justement, c'est précisément ces rapports de force là qu'il faut réussir à péter, quoi. Et c'est précisément aussi ça qu'il faut faire prendre. Notre rôle, c'est aussi de faire prendre conscience de ça à l'intérieur de l'oppression internalisée qu'on a tous et tout en nous, quoi. Par contre, je pense qu'il est intéressant et c'est quand même assez difficile comme exercice. Et peut-être que je me trompe, hein, mais moi j'essaye personnellement, c'est des fois de faire un travail d'empathie avec les cons, quoi. C'est-à-dire d'essayer de me mettre... Je sais que c'est un peu délicat comme question, hein, c'est pas évident, mais j'essaie de me mettre à la place de ces gens qui pensent comme ça. J'ai eu une discussion hier avec une amie au sujet de la conférence qu'on a eue sur « Some wrong is wrong on the internet », qui était une conférence qui était assez chouette, mais qui était quand même frustrante pour moi. Et j'ai compris pourquoi quand cette amie me l'a dit. Elle m'a dit « Mais c'est vrai qu'à aucun moment... » C'est vrai qu'on est là pour dire qu'il faut aller défoncer les gens qui disent n'importe quoi et leur montrer. Mais pourquoi on veut à tout prix avoir raison? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que dans notre société, on est aussi, nous, cette force et d'opposition, voilà. Et moi, je me dis, à un moment donné, est-ce que c'est pas sain et vital et nécessaire de réellement devenir aussi le con? Moi, vous parliez de des proches et compagnie, moi, cette phrase, je la trouve, enfin, on peut pas rire avec tout le monde et tout, je suis pas sûr de ça, en fait. Mais par contre, j'avais bien aimé ce que Louis Rigaud avait fait à un moment donné dans le tribunal des flagrants délires, où il se met dans la peau d'un nazi qui se réveille le matin, quoi, et qui fait sa vie de nazi. Alors, moi, j'avais trouvé ça génial, parce que le mec, il est dans l'humour, mais il est tellement dans le grincement, dans le truc, etc., qui dit des vérités sur pourquoi les gens se sentent mal en ayant des idéologies complètement extrêmes, et pourquoi ils sont comme ça. Et pour finir, j'ai une amie qui a réussi à parler à des gens qui l'ont agressé et qui lui ont dit des choses horribles, simplement en les aimant, simplement en leur disant « Mais en fait, t'es un pauvre gars, quoi. T'as pas d'amour, t'as besoin d'un câlin, viens, je te donne un câlin, quoi. » Et c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, en fait. C'est-à-dire, c'est pas toutes ces espèces de formules, on peut rire à tel moment, ou avec qui, ou avec machin, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on reformule finalement notre capacité à être des empathes avec l'horreur aussi, parce que on doit pouvoir intégrer ça pour comprendre ce qui se passe aussi. Et là, peut-être que l'humour peut passer d'une certaine manière. Je dis pas que c'est vrai, je sais pas. Moi, j'essaye de temps en temps, je me plante, mais bon, voilà, c'est peut-être une piste. Voilà, je sais pas.
Non, je trouve que c'est une question qui permet vraiment une discussion. C'est bon, là, on n'a plus beaucoup de temps, on va laisser la place aux autres. Mais pour reprendre un exemple, on peut plus facilement rire d'un sujet quand soi-même on est concerné. C'est évident, on est plus en position. Quand moi, je fais une blague sur les transgenres, bon, c'est ceux qui me connaissent, c'est sûr que ça les fait marrer parce que c'est évidemment pas une plaisanterie transphobe. Quand vous voyez 10 filles, la seule qui est en jupe, c'est la fille trans. Alors bon, on rigole. Et puis j'ajoute que parmi 10 filles en jupe, la seule qui a des porte-jartelles, c'est la fille trans, évidemment, parce qu'elle... Je plaisante en disant au début, elle en fait plus que les autres. Quoi. Voilà, elle joue à la gonzesse et des fois, il faut peut-être aussi qu'elle apprenne qu'être féministe, c'est arriver n'importe comment le matin en jean, en basket, parce qu'on est une meilleure assise, y compris pour courir si c'est nécessaire. Voilà, donc l'humour, c'est aussi ça. Moi, j'ai vu, jamais je l'ai raconté en public, des plaisanteries d'un copain juif, mais abominable. Il y en a une, je ne la raconterai pas là, parce que ce n'est pas possible. Mais lui, évidemment, c'était drôle, parce qu'on était ses amis, parce que la question ne se posait pas. Et quand on me demande parfois, là c'est perso, mais c'est marrant, c'est, en tout cas j'espère, pourquoi j'ai fait une transition, je réponds parce que maintenant je ne suis plus obligé d'être féministe avec les connes. Et finalement, c'est peut-être ça l'humour aussi.
On a malheureusement dépassé déjà notre temps, mais par contre, on va finir, je suis désolé pour les autres questions. Avant de laisser la place, quand même, de vous dire que vous pouvez retrouver les auteurs en dédicace. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir la librairie là-bas. Et nous avons, pour finir, en conclusion, un haïku de SF.
Je le lis. Hein. Coin cuisine du labo, Hulk déprimé, regarde ses épinards.